assez dur. Au pavillon des lauriers, il est tard pour se demander à quoi c'est dû ces corvées, à quoi c'est dû ces résidus d'amour aveugle. Au pavillon des lauriers, il faut croire qu'on a savonné la liberté. Je veux rester fou. J'adresse aux rivières des lettres de brume. Les anniversaires, je l'air dans la lune, mais je veille sur un grain de toute beauté. Un grain de toute beauté.
Je me réveille encore une fois.
On t'attache à ton lit. Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaît si ça passe. Voilà la traveneuse, ta solution aqueuse. Si c'est ça une médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça une médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça une médecine, je peux faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, alors au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, deux objets, un article du Monde diplomatique de ce mois-ci, mai 2025, intitulé « Cette jeunesse qu'on enferme ». C'est la question des lieux d'enfermement des mineurs. Et en deuxième partie, la poursuite de la lecture de « Abolir la contention », la brochure qui va donner lieu, cette année comme l'année dernière, à une rencontre et à des débats à Lyon. En l'occurrence. Et ben pour commencer, une petite brève dans la presse à propos de du projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Donc le projet de loi qui prévoit la création de maisons d'accompagnement pour les personnes en fin de vie et une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé. Aide par produit létal qui est encadré. Alors, le 21 janvier, le Premier ministre a souhaité que le projet de loi soit scindé en deux, deux propositions de loi, l'une sur les soins palliatifs, l'autre sur la fin de vie, ont ainsi été déposées par des députés en mars 2025. Elles sont examinées par l'Assemblée nationale en séance publique du 12 au 27 mai. Alors, là, ce qu'on voulait... c'est que, bien oui, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture mardi, donc, c'est-à-dire hier, une proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir par 305 voix pour et 199 contre. Voilà. Et les députés ont également approuvé la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d'accompagnement, cette fois-ci à l'unanimité. Alors, quelles sont les conditions de cette aide à mourir, de la réalisation de cette aide à mourir? Les personnes qui pourront demander cette aide devront être absolument... Enfin, ce sont les conditions à remplir... majeurs, français ou résidents étrangers réguliers et stables en France, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée, atteintes d'une maladie grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, et aussi qu'elles doivent être victimes de souffrances réfractaires qu'on ne peut pas soulager ou insupportables. Donc elles doivent remplir toutes ces conditions à la fois. Et donc, les personnes devront être capables de prendre leurs décisions en ayant conscience de la portée et des conséquences de leur choix, ce qui exclut les personnes souffrant d'une maladie psychiatrique qui altère leur discernement au moment de la démarche. Oui, non seulement la maladie psychiatrique, mais aussi le traitement qui lui est inhérent. Ça peut altérer le discernement. Quant à la notion de court terme ou moyen terme, l'exposé des motifs du gouvernement précise que, selon la Haute Autorité de Santé, on parle de pronostic vital engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours. Le moyen terme se compte, quant à lui, en semaines ou mois. Donc, voilà, ça c'est un extrait de cet article de Vie publique. Et simplement pour dire que voilà le passage, enfin le passage de cette loi, et les conditions dans lesquelles les personnes pourront demander cette aide à mourir sont assez les limites un cadre assez étroit, donc assez étroit pour que des abus ne soient pas commis, mais il reste à savoir si dans le temps long, ces règles ne vont pas se relâcher plus ou moins, comme ça s'est produit dans d'autres pays qui ont adopté cette démarche d'aide à mourir. La question des pressions sociales a été posée. Dans quelle mesure sommes-nous influencés par certaines pressions, conscientes ou inconscientes, lorsque nous demandons à mourir? Et comment aussi surveiller, en quelque sorte, disons, avoir un regard permanent sur les pratiques qui vont se réaliser dans le cadre de cette ce qui s'appelle aussi une forme d'euthanasie. Voilà toutes ces questions. Eh bien, on va passer un petit morceau musical et nous passerons ensuite à la lecture de cette jeunesse qu'on enferme, article du Monde Diplo de ce mois-ci. Alors, oui, on va donc écouter Sage des rues.
J'ai rarement eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains de partir au trou pour un télé mineur. Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies sont vides de sens, c'est que nos désirs se résument un putain de bidon d'essence. Une allumette, une étincelle, et que la France brûle comme à Vincennes. C'est toujours une histoire d'émeutés de classe, d'animal blessé, d'encristés, de guerre lasse, de regard baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système biaisé. À court terme, tous parqués au jetard, je suis pas close trop par hasard. Et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos vies leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de peine ne cesse d'augmenter. Ce monde nous fait malade ou criminel, ils nous enferment, nous infirmes. Nous on avance comme sur un fil. Incarcéré potentiel, les pieds sanglés dans ce putain de sol. 29 berges et si peu de rêves, des magouilles, des petits bises, à mesure que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuise, il paraît. Notre mode de vie les importune. C'est sûr, au bout du chemin, y'aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans ce putain d'époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qui se trame, que la réponse sera à la hauteur du drame. Trop de larmes sous les capuches, d'eau, ça les verser. Et si on noie la colère au fond d'un verre, c'est pour pas péter les plombs par la violence percée. Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme. Tristesse et cicatrices dissimulées sous l'épiderme. Tous les jours, l'impression d'éviter le pire. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de you, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de you, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Moi, je garde les ronces pour carburant, je reste du côté de ceux qui ont si peu à perdre. Des incendiaires qu'on incarcère et qui font pas les couvertures de leurs journaux de merde. Des vrais encristés de ce qu'ils osent appeler une crise. Des sacrifiés sur l'autel de leur putain d'escroquerie. Pour une enfleur qui s'auto-supprime à Wall Street, dis-moi. Combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater. Où sont pendant de sales paradis, la déprime pour seul partenaire. En haut lieu, pas ça se plaint, mais rassure-toi, ça croque encore et ça restructure. En pas, je t'apprends rien, ça canne un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain, ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa gamme, chacun sa cage, sa petite cachette, son élixir. Comme ça qu'on te baise à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant. Alors pourquoi les cachots craquent, pourquoi nos vies ont ce goût de chiotte, hein. La peste des flicards ne presse pas la gâchette. Moi je garde, tenace mes fantasmes, cramer le buisson qui camoufle ta forêt de classe. Arracher des bouts de vrai, des bribes de réel dans la matrice avant la tombe, briser leur glace en teint. Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi. Ni bourreau ni martyr et tout l'inverse d'un artiste. Me dis pas que je suis pas à plaindre. Je la connais bien, ta vieille rengaine du genre qui te paralyse. De la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en pied. Ce qui te sépare du précipice, de ceux qu'on dépasse pas, seul mais à plein. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de you, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères. Un peu plus d'euros dans les poches, plus de yeux, moins de gueule, faire le bonheur de mes proches. Moins de paroles, plus de prêches. La prison tue, alors c'est crève la tôle. Le taf nous tue, alors c'est crève la tôle. L'HP nous tue, alors c'est crève la tôle. La prison tue, alors c'est crève. La tôle, crève, la tôle, crève, la tôle.
Voilà cette chanson de Singe des rues pour introduire. C'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, et sur le site radio-libertaire.org. Donc, pour introduire cet article du Monde diplomatique, « Cette jeunesse qu'on enferme, l'État face aux mineurs délinquants », par Sophie Bourlet, journaliste. Une idée reçue voudrait que la jeunesse toujours plus violente plonge peu à peu la société dans le chaos, d'où les appels à davantage de sévérité et d'enfermement, mais dans quelles conditions et avec quelles conséquences ? La prison, c'est censé insérer, alors pourquoi je n'ai pas été à l'école ni au sport depuis 2 semaines ? Samy a 16 ans, sa cellule fait quelques mètres carrés. Entre 2 murs couverts de graffiti, un lit, des toilettes douches à la porte arrachée, le plateau repas de la veille qui traîne sur une table. Prévenus ou condamnés, 902 jeunes étaient détenus au 1er mars 2025 dans un quartier pour mineurs, au sein d'un établissement pour adultes ou dans l'un des 6 établissements pénitentiaires pour mineurs. Chacun doté d'une 60aine de places, comme celui de Samy dans le quartier de la Valentine à Marseille. Quand la justice en prononce, la durée moyenne des peines de prison ferme est de l'ordre de 4 mois. Tous les ans, 1 millier de jeunes font également l'objet d'une mesure de placement en centre éducatif fermé. Un peu plus de 50 structures destinées à accueillir, je mettrai entre guillemets bien sûr, jusqu'à 12 mineurs, dernière étape avant l'incarcération. Tejani Tarayoun, le code de la justice pénale des mineurs, un premier bilan statistique à 15 mois, Infostat Justice, numéro 94, Paris, 13 octobre 2023. Voir aussi statistiques mensuelles de la population détenue et écrouée, mise à jour le 31 mars 2025 sur wjustice.gouv.fr. C'est la loi dite Perben 1, adoptée en 2002, qui a créé les EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, et les CEF, centres éducatifs fermés. Le gouvernement s'attaquait alors à l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante au principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs et surtout à la primauté de l'éducatif sur le répressif. Citation : Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et parmi eux ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains, affirmait le célèbre exposé des motifs de cette ordonnance, aboutissement d'un régime de pénalité différent au terme d'une longue histoire amorcée par la promulgation du code criminel en 1791. Tourne les pages. Voilà. La plupart du temps, la justice opte pour des mesures éducatives, comme le placement ou la prise en charge sanitaire, ou encore les peines sous la forme de travaux d'intérêt général, de stages. Les nouveaux dispositifs d'enfermement imaginés par l'ancien ministre de la Justice Dominique Perben n'interviennent qu'en dernier recours et concernent aujourd'hui encore une très faible majorité. Une très faible minorité de mineurs délinquants, moins de 3% de ceux ayant fait l'objet d'une réponse pénale en 2023. Pourtant, depuis leur entrée en vigueur en 2004, des milliers de mineurs ont séjourné dans l'une de ces structures sous l'égide de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, mais également de l'éducation nationale ou de personnel de santé. Et le bilan est mitigé. Cheveux aux épaules, claquettes aux pieds, Samy reprend vite ses airs adolescents. « La prison s'est calée, sourit-il. Ça m'a donné envie de reprendre l'école. Il voudrait même devenir éducateur. Mais ce matin-là, comme souvent, du fait des arrêts maladie ou des vacances de poste, 31 surveillants sur 54 manquent à l'appel. Ni cours, ni aucune activité, donc, faute de pouvoir assurer les déplacements. » De manière générale, les temps de scolarité restent très inférieurs à ce que prévoient les instructions ministérielles. Tandis qu'un collégien français suit 26 heures d'enseignement par semaine, hors option facultative, la contrôleuse générale des lieux de privatisation La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, CGLPL, a pu comptabiliser moins de 5 heures en CEF au lieu de 25 heures d'activité prévue, 15 heures en établissement pour mineurs au lieu de 20, 6 heures en quartier mineur de prison au lieu de 12. Après plusieurs alertes en ce sens, elle a écrit-elle dans un avis « L'immense regret de constater qu'aucun progrès n'est réalisé, alors même que le droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants sans discrimination est consacré en droit international, européen et français. » Fin de citation de la Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et que parmi ces adolescents, parfois à peine sortis de l'enfance, la majorité arrive dans les lieux d'enfermement en grande difficulté scolaire au milieu de vies chaotiques et bouleversées. Toute mon enfance, je l'ai passée en placement ou en détention, raconte M. Idriss Aboudou, Monsieur Idriss Aboudou, d'une voix posée, assis dans un bureau de l'association de réinsertion ACAY, A-C-A-Y. Mon premier livre, je l'ai lu en prison à 16 ans, conseillé par une prof de français. C'était l'histoire d'un ancien braqueur devenu éduc. Ça fait cliché, mais ça a été comme un déclic. Derrière les barreaux, il a aussi pu passer son premier diplôme, rencontrer une psychologue, soigner ses addictions. Aujourd'hui, lors de ses interventions auprès de jeunes incarcérés, en tant que chargé de formation d'ACAY, il constate une détérioration. Ils passent tout leur temps en cellule, ils ne mangent même plus en collectivité. Monsieur Aboudou a grandi dans les quartiers nord de Marseille, élevé par sa tante. Il vit mal la séparation avec ses parents, resté aux Comores. Enfant turbulent, il traîne avec les copains de son quartier, la Busserine. Après les entraînements de football, pour rigoler, il fume une cigarette puis un joint. Il a l'impression enfin d'appartenir à un groupe et qu'on l'écoute. Peu à peu, il guette, vend de la drogue, vole pour payer sa consommation ou s'acheter les mêmes vêtements que les autres. Il est ensuite placé en foyer, puis en CEF, centre éducatif fermé, et en détention. À la sortie, toujours la même histoire, les collègues du quartier lui prêtent de l'argent, il se sent redevable, commet des actes. Pour un braquage qui a mal tourné, la justice lui inflige 6 ans de détention au Baumettes, cette fois chez les majeurs. Il se souvient de son arrivée. « Tous les gars que j'avais croisés dans les foyers, les CEF, les EPM, étaient là. » Trois caractéristiques ressortent de ce récit. D'abord, en prégnance de l'addiction, protoxyde d'azote, alcool, cannabis, les dépendances sont quasi systématiques et en détention, c'est souvent leur premier suivi médical. Nous raconte sous couvert de l'anonymat un soignant de l'EPM qui récupère des jeunes amochés physiquement, dit-il. Une étude menée par la PJJ le confirme. Les mineurs incarcérés appartiennent dans leur immense majorité aux classes populaires. Ils sont souvent éloignés des parcours de soins, alors que leur état de santé nécessiterait qu'ils s'en soient les premiers destinataires. L'arrivée en prison représente une opportunité pour réengager une démarche de soins. Alice Simon, les effets de l'enfermement sur les mineurs détenus, direction de la protection judiciaire de la jeunesse, Paris, septembre 2023. Dans les faits, et comme le constate la même étude de la PJJ, l'impuissance de l'institution à s'occuper correctement des mineurs qu'elle enferme domine. D'une part, à cause de moyens insuffisants pour faire face à la demande, à la fois en raison des fréquentes vacances de postes dues aux difficultés de recrutement et au turnover, et de la sous-estimation des besoins. D'autre part, du fait des conséquences de l'incarcération elle-même sur les jeunes, qui produit progressivement un sentiment d'aliénation mentale. Ces effets psychologiques, comme les limites de l'accompagnement, font douter du caractère dissuasif de la prison et contribuent à expliquer la troisième caractéristique illustrée par le récit de M. Aboudou, une récidive vécue comme inexorable. À l'origine, les CEF... À l'origine, les CEF ciblaient précisément les mineurs réitérants pour prévenir la défiance juvénile. Mais depuis longtemps, cette contribution à la prévention de la récidive fait l'objet d'interrogations. Déjà en 2011, un rapport sénatorial relevait qu'elle ne repose sur aucune étude scientifique établie. Et enfermée et éduquée, quel bilan pour les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs? Rapport d'information présenté par messieurs Jean-Claude Perronnet et François Pillet, Sénat, Paris, 12 juillet 2011. Le législateur a ensuite élargi les cas de placement dans ces centres. Plutôt qu'une solution de rechange à la prison, il concrétise désormais une extension des logiques d'enfermement, selon le sociologue Arthur Voitou. Les centres éducatifs fermés pour les adolescents sont-ils une alternative à la prison? Mouvement numéro 88, Paris, hiver 2016. Et donc, plutôt qu'une solution de rechange à la prison, il concrétise désormais une extension des logiques d'enfermement, selon le sociologue Arthur Voitou, et ce, dans des conditions souvent déplorables. Depuis son ouverture en 2017, le centre marseillais des Chutes-Lavie a enchaîné les directeurs ou les fermetures administratives sur fond de soupçons de mauvais traitements et de malversations financières. En 2023, celui de Soupe-sur-Loin, en Seine-et-Marne, a lui aussi fait l'objet d'une fermeture provisoire et a dû licencier deux éducateurs pour violence présumée. La Cour des comptes pointe en général d'importants phénomènes de violence qui ont conduit à des fermetures provisoires, voire définitives, de structures. Pendant la période 2014-2021, 14 suspensions provisoires d'activité de CEF, centre éducatif fermé, ont dû être décidées, dont 9 en raison d'atteinte aux droits des usagers, ou de dysfonctionnements structurels récurrents, et un établissement, le CEF de Dreux, a été définitivement fermé. Les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs, Cour des comptes, Paris, juillet 2023, voir aussi Sophie Bordier, Seine-et-Marne, un foyer de mineurs délinquants fermé, deux éducateurs mis en cause pour violence présumée, le Parisien, 3 mai 2023, et Myriam Guillaume, le centre éducatif fermé, SCEF, condamné jusqu'en novembre, la Marseillaise, 23 août 2024. On est tombé sur certains CEF où les gosses étaient tankés dans des chambres avec leur PlayStation en fumant du shit, nous raconte la contrôleuse générale des lieux de privatisation des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. Un autre, donc, dit-elle, où les éducs attrapaient les jeunes avec un lasso. Ils m'ont expliqué que c'était parce qu'ils travaillaient 70 heures par semaine qu'ils avaient pété un plomb. Madame Simoneau ajoute « Les seuls qui marchent bien sont ceux qui ont une équipe pérenne, bien formée et bien payée. » Fin de citation. Une situation rare dans des structures qui peinent à recruter et recourent souvent à des vacataires aux compétences inégales. La Cour des comptes souligne des coûts de fonctionnement élevés, 700 euros par jour par mineur dans les CEF, un montant encore supérieur dans les EPM, alors que l'accueil d'un jeune dans un foyer classique coûte aux alentours de 200 euros par jour. Les syndicats de la PJJ, regrettent, eux, un investissement massif dans l'incarcération au détriment des autres structures en milieu ouvert. En septembre 2024, il manifestait contre une possible suppression de 500 postes de vacataires annoncés à quelques jours de la rentrée. Le budget de la justice a augmenté de plus de 1 milliard d'euros depuis 2017 pour atteindre 10 milliards en 2024. Or, les ministres se félicitent d'une hausse surtout fléchée vers l'administration pénitentiaire, déplore M. Mathias Perrin, assistant social du Syndicat national des personnels de l'éducation et du social, SNPES. Côté PJJ, elle est concentrée sur le carcéral alors que tout le milieu de l'enfance est en souffrance en amont. Fin de citation. Si la proportion de jeunes incarcérés reste faible parmi ceux qu'ils suivent, les éducateurs de la PJJ regrettent d'en retrouver ensuite au pénal, faute d'avoir pu les remettre sur les rails, par manque de temps et de moyens, mais aussi, constate M. Perrin, parce que la situation sociale dans les quartiers se dégrade. À Marseille, il n'y a plus de place en détention, il y a plus de place en détention qu'en foyer, se désole Mme Alexia Père du même syndicat. Depuis 2010, les possibilités d'hébergement pour les mineurs sous main de justice auraient diminué de moitié, selon Citoyens et Justice, la Fédération des associations socio-judiciaires. L'avènement des CEF tendrait à se faire au détriment des séjours de rupture en centre éducatif renforcé, CER, qui permettrait aux jeunes de partir plusieurs semaines « au vert » entre guillemets, et des hébergements en foyer mixte. Selon les représentants du SNPES, le manque de place conduit à des aiguillages inadéquats vers des CEF et des EPM rarement pleins. Des profils avec des troubles psychiatriques, ce dont plus personne ne veut en milieu ouvert, certains qui connaissent même leur premier déplacement en détention au lieu d'un foyer, mais aussi les mineurs non accompagnés, ballottés de droite à gauche, faute de structure pour les accueillir. Plusieurs professionnels de l'enfance dénoncent également de jeunes juges sous pression qui choisissent d'enfermer pour, entre guillemets, protéger les jeunes lorsque des réseaux de trafic de stupéfiants les menacent. Ce sont des esclaves, de vraies victimes de traite d'êtres humains, constate Madame Laurence Bellon, juge pour enfants au tribunal de Marseille. Vous avez beau les placer 5-10 fois, ils y retournent à chaque fois. Les réseaux recrutent de plus en plus jeunes entre 2020 et 2024. Sa juridiction a traité 53 affaires d'homicide impliquant au moins un mineur. Si en 30 ans de carrière, la magistrate a pu observer quelques effets positifs de l'enfermement, elle en constate aujourd'hui les dérives. La droite, mais aussi la gauche, qui avait peur d'être taxée de laxisme, ont mis la pression dès les années 1980. Le nombre de dossiers a augmenté de manière massive et on a dû hâter la justice. Aujourd'hui, la moitié des mineurs arrivent menottés au tribunal. Ce n'était pas le cas avant. Fin de citation. Sous les présidences de Jacques Chirac puis de M. Nicolas Sarkozy, le législateur a accéléré les procédures et introduit la possibilité d'exclure l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans. Jusqu'alors, les peines étaient divisées par deux. Mais depuis le mandat de M. François Hollande, on constate une inflexion. Le Code de la justice pénale des mineurs, qui remplace depuis 2021 l'ordonnance de 1945 et les nombreux textes qu'il avait réformés, prévoit notamment une présomption simple de non-discernement avant l'âge de 13 ans et un jugement prononcé, sauf exception, en deux audiences sur la culpabilité du mineur puis sur la sanction avec, entre les deux, une période de mise à l'épreuve jugée positive par les professionnels. La proposition de loi dite Attal remettra-t-elle en cause ces quelques avancées ? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter, avait martelé M. Gabriel Attal lors de sa déclaration de politique générale en janvier 2024. Redevenu simple député, l'ancien Premier ministre persévère sous la forme d'un texte dont l'adoption conduirait à l'instauration d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans, à faire pour les mêmes de l'excuse de minorité une exception et au renforcement des sanctions infligées aux parents de jeunes délinquants. Nombre de juges redoutent la mise en œuvre de cette proposition de loi, dont l'examen en commission mixte paritaire a commencé. Les syndicats de la PJJ craignent une augmentation accrue des incarcérations. En avril 2024, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, défendait une réforme de la justice des mineurs, au fond assez semblable à celle promue par M. Attal. En général, la droite fait cause commune. Je cite. De plus en plus de jeunes sont des tueurs, affirme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur CNews, 21 novembre 2024. Il y a 25 ans déjà, l'affaire des entre guillemets tournantes déclenchait une panique morale. Voir Laurent Bonelli, La France a peur, une histoire sociale de l'insécurité, La Découverte, Paris 2008. Aujourd'hui, c'est la mort du jeune Thomas Perotto à Crépol, dans la Drôme, ou celle d'un conducteur de voiture de transport avec chauffeur, VTC, tué d'une balle dans la nuque par un adolescent de 14 ans à Marseille sur fond de narcotrafic, voire les rixes de lycéens. Autant de faits divers montés en épingle pour raconter une France orange mécanique, une jeunesse ensauvagée. À en croire les statistiques ministérielles, le nombre d'actes violents, assassinats, meurtres, coups mortels augmenterait, tandis que la délinquance des mineurs dans son ensemble régresserait depuis 10 ans. Responsable du pôle justice des enfants à Citoyens Justice, Madame Sophie Diel note, elle, une forte croissance du nombre de mineurs incarcérés depuis les émeutes de l'été 2023. Si en parallèle l'ensemble des affaires traitées au parquet impliquant des mineurs a chuté de 20% entre 2018 et 2024, cela n'équivaut pas, selon Madame Diel, à un recul de l'indélinquance. Elle y voit plutôt un affaissement de l'accompagnement éducatif pénal. Je cite « L'orientation des forces de police vers les violences intrafamiliales et le non-discernement par défaut des moins de 13 ans ont eu pour conséquence une diminution des arrestations de primo-délinquants. Or, sans réponse éducative, les situations se dégradent et elles sont plus graves lorsqu'elles arrivent au parquet. » Voilà, c'était un article de Sophie Bourlet, paru dans le Monde diplomatique de mai 2025. Alors, quels commentaires peut-on faire de plus? Il n'y a pas grand-chose à ajouter. On se rend compte globalement que c'est une certaine catégorie sociale à laquelle on applique un certain régime. La plus paupérisée, évidemment, et le régime le plus dur. Tout simplement, et nous allons écouter un autre morceau, et nous allons passer à la deuxième partie de notre programme, à savoir abolir la contention. La deuxième donc thématique de notre émission d'aujourd'hui. En attendant, nous allons écouter Zéro de conduite de Tagada Jones.
Ce matin, je ne sais pas pourquoi je me réveille encore une fois avec une putain de gueule de bois. Et comme si cela ne suffisait pas, il passe en boucle à la radio plein de connards et d'intellos. Non, je ne fais pas partie de la France qui se lève et dont je n'ai aucune envie de passer ma vie au boulot. À croire que tout le monde se passe le mot. Le travail, c'est l'avenir des marmots. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour m'assurer une vie sans trop d'accrocs. J'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut et quoi qu'il en soit, j'aurai le dernier mot. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Enfin, faire ce qui me plaît. En retour, à toutes vos belles réussites, je vous offre un zéro de conduite. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société tout me rapporte pour toutes ces conneries. Ce n'est pas la peine de compter sur moi. Je veux pas être flic, ni trader, ni banquier, encore moins avocat, ou pire, gagner de grandes carrières. Ne me font pas rêver, j'ai pas vraiment envie de devenir un enculé. Je voudrais juste qu'on me foute la paix. Enfin, faire ce qui me plaît. En retour, à toutes vos belles réussites, je vous offre un zéro de conduite. Je rêve de soleil, de soirées et de fêtes, alors que vous voulez m'en mettre plein la tête. Cette vie n'est pas pour moi, société qui me rapporte pour toutes ces conneries.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous abordons la suite avec Abolir la contention. Abolir la contention, c'est une soirée d'échange et sortie de brochure. Donc, on va faire l'annonce de cette soirée d'échange et de sortie de brochure mercredi 25 juin, 19h. Il y a un an, une journée d'échange autour de l'abolition de la contention en psychiatrie réunissait des personnes concernées, des pères aidants et aidantes, des proches, des soignants et soignantes, des camarades. De cette journée est née une brochure « Abolir la contention, récit d'une journée sur l'entrave en psychiatrie ». Nous vous invitons à une soirée de sortie de brochures et d'échanges sur l'abolition de la contention en psychiatrie le mercredi 25 juin 2025 à 19h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7. Je répète pour vraiment celles que ça peut intéresser ici. Mercredi 25 juin 2025 à 19h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7. Cette soirée nous permettra de diffuser les brochures qui sortent tout juste des rhizographes, de financer de futures impressions, d'échanger autour d'un verre et d'une collation végétarienne. Surtout, cette soirée sera l'occasion de reparler de l'entrave en milieu psychiatrique et de faire exister le fait que nous sommes de plus en plus à nous élever contre ces pratiques. Nous voulons aussi profiter de cette soirée pour créer un espace de partage et de rencontre entre des personnes concernées par la contention, par les troubles psychiques et le soin. Différents collectifs à Lyon se créent et luttent pour un soin humain. Nous souhaitons faire de cette soirée un espace de rencontre entre ces collectifs. Pour que nous puissions au mieux organiser cette soirée, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez individuellement ou collectivement porter une parole autour de cette thématique. Alors, par contre, là oui, je n'ai pas tout de suite le contact, je vais essayer de le retrouver. Peut-être... Bon, voilà. Je cherche un peu, mais je ne vais pas chercher trop longtemps. Peut-être... Ah oui, voilà. Vous pouvez écrire un mail à abolir la contention en un seul mot. Abolir la contention @proton.me. Abolir la contention @proton.me. Donc, qu'est-ce que c'est que cette brochure ? Eh bien, nous en avons déjà parlé il y a 2 semaines à l'émission L'Entonnoir. Nous en avons cité quelques extraits et nous allons vous donner lecture d'autres extraits aujourd'hui. On va commencer déjà par Mathieu Bellassène qui a écrit un livre « Abolir la contention » et qui présente son livre. Donc c'est un texte inclus dans cette brochure « Abolir la contention ». Dans mon livre, écrit-il, je me suis centré sur la contention. Le seul lieu où elle est encadrée, c'est dans les secteurs de psychiatrie adulte. Elle n'est pas encadrée en réanimation, ni dans les urgences, les EHPAD, les ambulances ou les foyers de vie. Il y a les vides juridiques. Des vides juridiques. Pour les enfants, elle est encadrée de manière bizarre parce que quand vous êtes un ou une gosse et que vous décompensez, vous n'êtes pas hospitalisé à la demande d'un tiers, vous l'êtes sous l'autorité parentale. Un enfant n'a pas les mêmes droits que les adultes, notamment le droit de faire appel aux contre-pouvoirs que peuvent peut-être le juge des libertés. Si l'on parle de chiffres, 2021, c'était 10 000 personnes attachées. D'ailleurs, faut arrêter de dire contentionné, de mon point de vue, il faut dire attaché. Derrière cette histoire de mots, il y a un grand problème au niveau de l'imaginaire collectif. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par soin ? Petit rappel, dans la loi de 2011 qui encadre les hospitalisations sous contrainte, celles-ci sont appelées soins sans consentement. On parle de soins sans consentement. Il y a là un point hyper important. Ça n'existe pas, les soins sans consentement. Ça existe les injections ou des prises de médicaments sans consentement, ça existe le fait d'être à l'hôpital sans l'accord de la personne elle-même. Par contre, on ne peut pas dire qu'on soigne sans consentement ou que la contention est thérapeutique. Le soin, c'est tout faire pour créer de la relation avec les gens. Parfois, on a besoin d'outils parce que la relation n'est pas possible avec les soignants, avec nous, avec le monde de la personne ou ses proches. Mais de dire que le soin, c'est équivalent à la contrainte, c'est un problème. C'est un problème d'imaginaire de soins, de la culture de l'entrave, et un problème d'imaginaire politique. Un problème qui donne en 2021 en France 90 000 personnes en soins sous contrainte, 80 000 hospitalisés par an sans consentement, parmi lesquels 30 000 en isolement et encore parmi elles 10 000 en contention. Dans le livre, j'aborde ce que j'appelle le système contentionnaire. Oui, ça sonne avec l'univers concentrationnaire de l'essayiste David Rousset qui parlait des camps nazis en 1946. En fait, je veux dire que le système contentionnaire est fait de plusieurs sangles. La première, elle nous concerne tous et toutes en tant que citoyennes, c'est l'emmurement du monde, le fait qu'il y a de plus en plus de murs dans le monde entre les États, entre régions, etc. Ça emmure aussi les relations entre nous tous et toutes. L'imaginaire sécuritaire dans la société contamine jusqu'aux soignants et soignantes en psychiatrie. Quand il y a un imaginaire un peu plus émancipateur, on est contaminé positivement par cet imaginaire émancipateur. Donc ça, c'est la première sangle, les murs. La deuxième sangle, c'est ce que je nomme, écrit Mathieu Bellassène, la sangle cérébrologique. Ici à Lyon, vous avez le psychiatre Nicolas Franck, c'est un professeur universitaire du centre hospitalier universitaire CHU de Lyon au Vinatier qui organise la psychiatrie lyonnaise et qui est très lié à Fonda Mental et compagnie. C'est pas mon pote. En fait, selon moi, ces gens-là ne font pas de la psychiatrie. Ils font de la cérébrologie, c'est-à-dire qu'ils ont des discours et des pratiques sur le cerveau. Je critique pas ça en tant que tel, je le critique en tant que ça se fait passer pour du soin. Nicolas Franck, dans une émission à la série documentaire de France Culture, dit qu'une patiente, quand elle décompense, ou un patient quand il décompense, alors il ou elle reste maximum 3 semaines à l'hôpital. Si le patient a des problèmes sociaux ou qu'il est à la rue, c'est pas le souci de l'hôpital. On l'envoie à l'assistante sociale, et elles vont mettre les médicaments, dire qu'elles vont s'intéresser au patient et à ses habiletés sociales. Bon, j'avoue, c'est pas facile de lire l'écriture inclusive comme elle est pratiquée ici. Je vais faire autrement. Mais en fait, son emmerdement dans le milieu où il vit, on n'en parle pas. Au contraire, j'ai défini la psychiatrie comme le iatros de la psyché, c'est-à-dire en grec ancien, l'activité de soin de la psyché. C'est prendre soin de nos emmerdes existentielles, quoi. La psychiatrie française, libérée des chaînes... Donc c'est prendre soin de nos emmerdes existentielles, et on en est encore loin. Prenez Philippe Pinel, c'est celui qui a, dans le mythe de la psychiatrie française, libéré des chaînes des aliénés à l'hôpital de la Salpêtrière et Bicêtre à Paris. Maintenant, il y a une marque de sangle de contention qui s'appelle Pinel. Il y a du marketing, des communicants de merde qui se disent « Tiens, on va appeler une marque de sangle Pinel ». Là aussi, on voit l'imaginaire. Je vais vous dire la phrase sur leur site internet. Le concept Pinel permet de satisfaire aux besoins de contention de tout niveau avec un seul système. Dans la contention d'urgence, le patient agressif peut être immobilisé en 7 points en moins de 10 secondes. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont sous contention. Ce système s'adapte à tous les types de besoins de contention des institutions. La contention des institutions, voyez comme ces communicants ont aboli l'inconscient. Ils ne s'entendent pas parler, donc tout type de besoin de contention des institutions, soins prolongés, urgences, psychiatrie, soins intensifs, etc. Il y a une création d'imaginaire, un renversement pervers des mots, des pratiques, de l'histoire. Dans la seconde partie du bouquin, je témoigne du fait que nous ne sommes jamais seuls quand on attache un patient. Ça se fait toujours en groupe, en collectif de soins. Je raconte un certain nombre d'histoires très concrètes vécues avec les personnes qui étaient hospitalisées dans le service où je travaillais sur comment on faisait sans contention. Nous, par exemple, on n'avait pas de sangle, tout comme 15% des lieux de soins en France d'ailleurs, où il n'y avait pas de contention, ou très peu. Pour 85% des lieux, il y en a beaucoup, voire tout le temps. La culture de l'entrave fait que c'est aux 15% qui n'attachent pas de se légitimer auprès des 85% qui attachent. On entend « vous n'attachez pas parce que vous sélectionnez vos patients, parce que vous n'avez pas les mêmes patients que les autres, parce qu'ils ne sont pas aussi précaires ». Tout ça, c'est du blabla. Hier, j'étais à Marseille et à l'hôpital de Valvert. Ils n'ont pas de contention, ils sont même en train de travailler à ce qu'il n'y ait plus de chambres d'isolement. Ils interviennent dans les quartiers nord, on ne peut pas dire que les quartiers nord de Marseille, c'est tranquille. À la fin des années 1950, dans un hôpital psychiatrique parisien du 13e arrondissement, à SM13, le médecin Philippe Pommel a dit qu'il n'y aurait pas de contention et jusqu'à maintenant, ça n'a pas varié. Dans tous les autres secteurs de psychiatrie à Paris, on attache, mais pas à la SM13. Utiliser ou non la contention, c'est pas non plus un problème de moyens financiers comme c'est souvent dit. Les syndicats notamment ont souvent cet argument-là. L'argument financier est réel, mais il ne suffit pas parce qu'on attache même quand on n'a pas de problème de fric ou de personnel. C'est un problème d'imaginaire. Dans la dernière partie du bouquin, je fais des propositions, écrit Mathieu Bellassen, des propositions très concrètes en partant d'expériences existantes dont on entend peu parler en France. Le Conseil de l'Europe a fait un tour d'Europe, pas que l'Union européenne, des pratiques alternatives aux mesures de contrainte. Je rajoute au passage que dans mon livre, je me suis centré sur la contention, la contrainte physique. Je n'ai pas parlé de la contrainte chimique ou de la contrainte légale. Moi, mon penchant pour les collectifs de soins, ça s'appuie sur l'histoire de la psychothérapie institutionnelle qui cherche à réfléchir à comment on va construire avec les premières et les premiers concernés nos dispositifs de soins. On va essayer de diminuer les effets d'hiérarchie, de tendre vers une horizontalité qui n'est jamais possible, mais en tout cas vers une transversalisation des liens. Et ce que disent tous les programmes internationaux, c'est des trucs que nous, on connaît bien. On sait qu'il faut qu'il y ait une volonté à tous les échelons du corps psychiatrique dans un service pour que les professionnels soient partie prenante avec les patients. Il faut que le médecin-chef ou la médecin-chef soutienne. Il faut que la hiérarchie infirmière soutienne. Il faut que la direction de l'hôpital soutienne. Que les agences régionales de santé soutiennent. Que tous les échelons politiques soutiennent et se parlent régulièrement. Mais l'ARS, du côté de Marseille,
l'Agence régionale de santé, ne soutient pas le travail du centre Valvert qui veut se passer de chambres d'isolement. Quand il y a des pratiques de contrainte, il faut un retour d'expérience, qu'on se parle, qu'on parle avec les patients qui ont vécu ça. Leur demander qu'est-ce que ça vous a fait, à votre avis, comment on aurait pu faire autrement. Il faut aussi mettre en place ce qu'on appelle les directives anticipées. Quand les gens ont déjà décompensé et qu'elles vont mieux, on leur demande comment il faudrait faire la prochaine fois qu'il n'est pas bien. La psychiatrie, elle doit se faire à partir du vécu, des idées, des gestes, des premiers concernés, avec et à partir d'eux et d'elles. C'est aussi un des points hyper importants. Comment on fait de l'autodéfense, comment on se défend dans des circuits psychiatriques un peu brutaux en ce moment. Et puis je vais m'arrêter après avoir dit que dans les propositions très concrètes, il y a en premier d'arrêter de dire que la contention est un soin. Il faut dire que c'est une mesure de sécurité, pas une mesure de soin, une mesure de contrôle. Peut-être que certains ne peuvent pas s'en passer, mais en tout cas, arrêtons de dire que c'est un soin. Deuxième chose, essayons de créer peut-être un observatoire, comme David Dufresne l'a fait avec hashtag Allo Place Beauvau pour les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Faisons un observatoire qui pourrait recueillir les témoignages. Tout ça crée de la honte. Pendant la présentation du livre, les premières concernées ou les premiers concernés qui ont vécu la contention disent « Merci parce que enfin on peut faire comprendre ce qu'on a vécu, on peut dire aux proches « Lis ça, tu verras ce que j'ai vécu et ce que je ressens ». Donc un observatoire sur ces maltraitances institutionnelles, ça serait utile. Rappelons-nous que le comité de prévention de la torture en 1994 disait que la contention était une torture. En 2003, ce comité a révisé son jugement. Il dit que c'est du dernier recours. Cet observatoire pourrait faire l'état aussi des pratiques alternatives. Il y a quand même plein de lieux, 15% des lieux en France, c'est beaucoup, qui font 100. Je conclus là-dessus, écrit Mathieu Balassène dans cette brochure. La contention, ça peut être la pierre d'achoppement de plusieurs mobilisations, comme l'est aujourd'hui le béton, ou comme l'a été l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou comme le sont aussi les reprises de terre. Il faut bien commencer quelque part, et commencer par une lutte concrète contre la contention, ça peut déboucher sur plein de luttes. Je plaide, écrit-il, pour l'abolition, parce qu'abolir n'est pas interdire. Dans l'abolition, il y a une dimension imaginaire qui dit quelque chose de la société. L'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort, l'abolition des privilèges. L'interdiction, peut-être que ça peut être un pas, mais ça vient d'en haut, c'est très vertical. Alors que l'abolition, ce sont les personnes concernées qui la mettent en place. Voilà, ainsi plaide Mathieu Balassène pour l'abolition de la contention. Et c'est nous, à l'entonnoir, qui prônons d'ailleurs, par ailleurs, l'abolition de la psychiatrie et du monde qui va avec. Mais c'est une autre histoire. Alors, il y a eu un temps d'échange après cet exposé de Mathieu Balassène et ce temps d'échange recueilli lui-même dans la brochure « Abolir la contention présentation ». Mais ce temps d'échange, nous n'allons pas vous l'exposer aujourd'hui. Peut-être une fois suivante, une fois prochaine. Ainsi se termine pour aujourd'hui l'entonnoir. Nous vous disons donc à la semaine prochaine. Et salut à Sylvie aussi, je lui souhaite un bon rétablissement. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4, voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération. anarchiste.
Il fait refleurir nos...
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Amen.